Torchnet est né en 1787 à Versailles, élève de David dès 1812, puis de Regnault et du baron Gros. Il participe sans interruption au salon pendant 55 ans, de 1812 à 1867, obtenant deux fois une médaille de première classe, l'une en 1819 et l'autre lors de l'exposition universelle de 1855. Il est à deux fois repris directeur de la Villa Médicis de 1841 à 1846, succédant à Ingres, puis de nouveau de 1853 à 1866. Reçu à l'Académie, au fauteuil du baron Gros, il est connu pour avoir envoyé au salon de pittoresques scènes de genre. Inspiré du peuple italien qui l'entoure, le plus célèbre de ses tableaux étant la Viseuse de Bonaventure, ce sont des scènes populaires d'une Italie grotesque, romaine, napolitains qui sont qualifiés par Baudelaire de gros tablillons italiens. Aquarelliste, pastelliste, graveur, peintre de portraits comme de scènes de genre et d'histoire, il touche à la lithographie et meurt en 1870, dans la troisième année de son exil à Paris, comme l'a écrit Paul Baudry en faisant allusion aux vœux secrets du peintre de pouvoir mourir en Italie. Parallèlement, il reçoit les commandes de décoration de plafond du Louvre, tel Charlemagne entouré de ses principaux officiers, ou encore au château de Versailles pour la galerie des batailles de six grandes compositions de 1824 à 1848, eux défendent la ville de Paris contre les Normands, ayant le plus grand succès. Il travaille à Paris pour les églises de Notre-Dame de Lorette et Saint-Séverin, le Samaritain blessé de Jéricho. Notre composition tourangelle religieuse de Martin a été commandée à Schnetz par le ministre de l'Intérieur Jacques-Joseph de Corbière en 1822, confirmée en 1823. À cette époque, Schnetz est à Rome. Depuis 1817, il gravite autour de la Villa Médicis, même s'il échoue cinq fois au prix de Rome. Il entreprend son travail, guidé, contrôlé, par le directeur de l'Académie de France à Rome, Guérin. Ce tableau est de grande dimension, 4 mètres de haut, 3 mètres 30 de large, réalisé à Rome, il est transporté roulé à Paris et présenté au salon de 1824 sous le titre « Saint-Martin coupe son manteau pour en donner la moitié à un beau ». Il est attribué à la cathédrale en 1825, à la satisfaction de l'archevêque de Tours, placé dans le bras nord du transept, au-dessus de l'autel, dans l'ancienne chapelle paroissiale dédiée à Saint-Martin. Présenté depuis 1828-1831 dans un grand retable comportant des colonnes de marbre rouge, supportant un fronton dans la partie centrale, complété par des boiseries peintes où viennent s'insérer deux niches de part et d'autre de l'autel. Les quatre colonnes, comme la balustrade de marbre, proviennent du château de Richelieu. La rampe du grand escalier du château du cardinal faisait et désormais office de table, de barrière, de communion. Ce tableau a été restauré en 1996 et n'a jamais été prêté à une exposition. Élève de David, Schnetz, de sa formation néoclassique, de sa fréquentation du monde romain, a une composition extrêmement inspirée à travers ses lignes de force dans une construction où la verticalité domine et les diagonales ne sont pas moins importantes. Verticalité qui nous saisit, horizontalité qui sépare les deux personnages, le tiers de gauche fait apparaître le cheval, celui du centre, Saint-Martin, Et le troisième tiers, le pauvre. La diagonale distingue le cheval, le cavalier, du pauvre. Et l'équilibre se fait par le motif d'architecture qui, sur la droite, se vase à mur sur une colonne qui répond au cheval. L'autre diagonale fait apparaître les deux personnages dans le même espace. Les pieds du pauvre se rapprochent des jambes du cheval. Saint-Martin est dans ce triangle dont la composition rappelle les autres lignes. Autre oblique qui passe entre l'œil de Saint-Martin et le cheval. L'autre, parallèle au pauvre, de sa tête à son pied droit. Entre les deux, Martin. Diagonale des deux genoux de l'animal et de l'homme assis. Autre oblique du chef casque à la tête. Ce qui nous met au centre en losange, l'acteur principal, Martin, et son geste. Toutes ces lignes croisées au nombre d'or nous donnent la construction de ce tableau. Savamment composé. Où la seule horizontalité quasi est large, symbolique et structurante. Ce tableau, en outre, est très classique par le traitement de la scène. À travers les accessoires composant le décorum, comme les poses, les vêtements, l'arme. C'est une stricte observation historique, voire quasi-archéologique. Ainsi, par exemple, l'absence de d'étrier est révélatrice d'une bonne connaissance de l'équitation sous Rome. Schnetz fait ici preuve d'une prédilection néoclassique au réalisme historique plus qu'allégorique, ou même romantique. Le cadre est composé de tours, de murailles, de créneaux, de portiques, de guichets, qui sont autant d'éléments typiques constitutifs de l'entrée fortifiée d'une cité gallo-romaine au Bas-Empire. Le décor hivernal enchaîné, enneigé, enferme la scène dans un angle. Néoclassique et néo-antique, le cheval est inspiré de la grande statue antique des caisses dites de Marc Aurèle sur la place du Capitole. Attitude, mouvement, port comparable. Le cheval de Schnetz reprend ainsi la plus célèbre et aussi la plus ancienne équestre statue, la seule de la Rome antique qui nous soit parvenue jusqu'à nos jours et qu'il a eu tout loisir d'observer pendant son séjour romain de 8 ans. D'autant qu'il fut lié à Géricault, le peintre des chevaux. Misérabilisme, certes, mais non romantico-pleurnichard. Le misérable est à demi-nu, il ploie sous ses genoux aux pieds de Martin, sous le poids d'un fagot de bois mort. Mais, observons bien, les deux protagonistes s'ignorent. Les corps sont indépendants, sans chevauchement, hiérarchisés. Ils sont juxtaposés. La verticalité accuse la différenciation sociale. Même le manteau ne fait pas le trait d'union entre les deux protagonistes. Martin tient l'extrémité du manteau, alors qu'aucun pan ou partie du manteau recouvre même partiellement le corps du pauvre. Le coup d'épée ramène le manteau sur son épaule. Aucune symbiose picturale entre les deux acteurs. On pourrait même parler d'une certaine condescendance. Verticalité, hiérarchisation, distanciation sont-ils l'illustration sous la restauration d'un contexte social, politique, ambiant de fortes inégalités. D'ailleurs, les regards ne se croisent pas. Martin a les yeux mi-clos sur le geste qu'il accomplit. Sur son manteau, le pauvre est hagard, un œil exorbité, et le cheval, en parallèle au plan du tableau, il nous fixe comme spectateur, mais il reste indifférent à la scène. Chaque parallèlement échappe au courant ambiant contemporain du romantisme déployant un pathos habituel à travers une scène matinée d'historicisme de type troubadour avec l'archétype du cheval féodal richement harnaché, tranchant avec cette allégorie de la pauvreté boursouflée de pères ravagés par les épidémies. Le sujet romantique eût dressé Martin en cavalier plus gentilhomme que soldat de Rome. Ici, Martin, jeune circitor de 18 ans, c'est-à-dire officier de cavalier de première classe de la garde impériale, alors que ses sourcils sont noirs, sa lèvre supérieure est délicatement ourlée d'une fine moustache blonde et la jugulaire de son casque cache une barbe tout aussi claire et laissant au menton. Il tranche son manteau, appelé chlamide, fendu et fixé sur l'épaule droite par une broche ronde en or ouvragée, la fibule. Tout est incontestablement de facture, de sensibilité, comme de précision de détail, tant de la monture que de son cavalier, un gresque. Mais Schnetz n'a-t-il pas rencontré à plusieurs reprises, tant à Rome qu'à Florence, au nom de ses voyages, Monsieur Ingres? N'a-t-il pas succédé à Monsieur Ingres à la villa Médicis? Seule liberté prise avec la vérité archéologique, cette chlamide des toques de laine était de couleur blanche. Le rouge était réservé à l'empereur et confère ainsi à Martin un geste symbolique d'autant plus fort le rattachant à la pourpre impériale. Par ailleurs, le rouge n'est-il pas aussi la couleur de la passion des martyrs et pour ici de la charité? Le pauvre, misérable, à moitié nu, voyant à genoux. Son corps n'est pas déchargé, il n'est pas blessé. Il est quelque peu même athlétique. Ses muscles sont saillants, membrés, semblables aux chausses que celles de portées par Martin, mais les siennes sont hors d'usage. À l'épée répond sa masse, sa manchette. Les couleurs du tableau. À l'exception du manteau, elles sont ternes, sombres. La dominante est froide, brune, avec des reflets métalliques d'acier bleuli dont le casque et l'armure en écaille en sont les symboles. Un camailleux de blanc éclaire le cheval, le bras de Martin joue avec la lune et le givre ambiant recouvre sol et motif architectural de décoration comme le vase urne sur une colonne. Autre couleur froide, la rouille passée qui recouvre Martin, qui rappelle le marron foncé du bonnet du pauvre, avec un bleu sombre, sans éclat, ni reflet, employé pour le pantalon, large braie et le tapis de selle. La peau tannée du pauvre est sombre, brune, tranchant avec la proximité du manteau rouge vif, au large lit sec, sans mollesse. Deux taches de couleur jaune, avec l'or de la garde du faux de l'épée et la broche retenant la fourrure, tapis de sel comme les harnais. Ayant eu le bonheur d'avoir vendu aux enchères un tableau de Schnetz au musée de Flers, le château de Flers est la propriété d'Antoine, le frère de Victor, propriété désormais de la commune, qui conserve plus de 10 œuvres de l'artiste, représentant le tableau que nous avons vendu Bonaparte en Égypte, j'ai pu remarquer de près que la pâte de Schnetz est épaisse. Elle est de consistance quelque peu grumeleuse, avec comme des granulations. Sa technique n'est pas léché au pinceau de soie, mais en toute vraisemblance à la brosse appliquée à larges aplats. C'est le privilège des commissaires-priseurs de pouvoir approcher de près les œuvres et de vous faire partager leurs ressentis. Mais un éminent descendant de Schnetz parmi nous, collectionneur averti des œuvres de son ancêtre, Tourangeau, le confirmerait effectivement. Pour ce tableau de commande officielle, 4000 francs or furent versés à Victor Schnetz, œuvre de grande dimension, 13 mètres carrés, ce qui correspond à une commande importante. À l'époque, pour 30 francs or, vous vous procuriez un pantalon et un chapeau de ville, et un bon cheval anglais vous était vendu pour 500 francs. Ce tableau fut mal accueilli par la critique en 1824. Manque d'invention, assez d'émotion, écrit Pierre-Alexandre Poupin dans la revue encyclopédique de janvier 1825. Mais néanmoins, il servit de modèle à de nombreux vitraux, tels ceux de la chapelle de l'école Saint-Martin de Tours, pour les églises de Sorigny et la verrière de Saint-Christophe de Guignac dans l'Indre, sans oublier l'œuvre contemporaine d'actualité de Michel Audiard, sculpture métallique à partir du tableau de Schnetz pour la commémoration de cette année. Peintre, jugé du juste milieu, pour reprendre l'expression de Bruno Fougard, qui est un universitaire français, historien de l'art, et d'architecture quelque peu 19e. Ni totalement classique, ni déjà romantique, sa réhabilitation serait en cours. Quoi qu'il en soit, il incarne l'artiste académique, officiel, dont ce tableau de peinture religieuse en est l'archétype sous la Restauration. C'est un artiste respectueux des institutions officielles. Victor Schnetz a réussi une brillante carrière comme peintre d'histoire. Un bon tableau d'histoire religieuse est considéré comme un grand petit maître ou un petit grand maître. François-René Chateaubriand ne déclarait-il pas en 1802 dans le génie du christianisme « Le christianisme est plus favorable à la peinture qu'une autre religion ?» Notre religion à nous, c'est notre histoire. Eh bien, ce tableau religieux de la cathédrale Saint-Gatien contribue à tout, à notre histoire de Saint-Martin de Tours. Merci, Victor Schnetz.